de la connaissance. Mais le danger était, voyez, de prendre la révélation comme une étape vers une connaissance plus profonde, acquise non par la grâce, mais par une illumination de l'intelligence au terme d'efforts ascétiques qui ne peuvent toucher, alors dans le cadre de la gnose chrétienne, peuvent un peu toucher tout le monde, mais qui dans le cadre des gnoses païennes ne touchaient que la minorité de ceux qui ontologiquement étaient des pneumatiques, des spirituels. Autrement dit, des bouts du divin perdus dans la création matérielle. Et alors, du coup, vous aviez une doctrine exotérique, c'est la révélation, la bonne nouvelle à proclamer à tout le monde. Bon, pour les gens un peu grossiers, quoi. Alors, on parle en parabole, parce que c'est. Voilà. Et puis, vous aviez une doctrine ésotérique pour le petit nombre, une doctrine cachée pour l'élite, qui va bien au-delà. Et ça, vous allez voir, ça va ressortir continuellement dans l'histoire de l'Église, notamment avec les millénaristes de l'époque de Saint François, de Joachim de Flore, là, etc. Où on va
Fin du
être.
libre-esprit.
Oui, voilà, on dit le Christ. En fait, ce n'est pas vraiment le centre du chemin spirituel. Parce que le Christ, il est incarné. Il a du coup créé quelque chose qui est à son image, qui est une église remplie de ministres indignes, etc. Et en fait, la vérité, c'est l'esprit qui est invisible, insaisissable, transcendant, etc. Et donc, la véritable église, c'est l'église de l'esprit, qui est au-delà de toute institution visible. Alors, et donc, voilà, seuls ceux qui sont appelés à cet évangile éternel, hein, comme ils disent, peuvent aller jusqu'au bout du chemin spirituel, et puis les autres restent en chemin, ils en restent au Christ et à l'Église. Et vous voyez comment ça aura des conséquences avec la réforme, où on dira que l'Église n'a plus de visibilité. Elle est purement spirituelle, invisible, transcendante, elle est confondue avec le royaume. Et puis les oripeaux de la visibilité, on les laisse aux princes qui les gèrent. Et puis voilà, enfin, donc il y a toute une filiation de ces doctrines. Donc l'idée, le danger, vous voyez, c'est non seulement l'élitisme, l'ésotérisme, et puis une anthropologie qui est complètement fausse, quoi, dès le départ. Et donc ceux qui se laissèrent aller à cette doctrine, à ces courants, à cette tentative, prétendirent détenir un dogme plus profond que celui qui est révélé par les apôtres aux gens purement matériels ou purement psychiques. Voilà, donc il y a des catégories d'hommes qui sont ouverts par nature à la révélation ultime, et les autres, bah, ils doivent se contenter de la révélation évangélique qui passe par l'Église et qui est juste bonne pour leur éviter de faire n'importe quoi. Voilà, pour éviter que la vie terrestre devienne insupportable aux pneumatiques, parce que quand même, il faut que les barbares ou les bestiaux soient, comment dire, canalisés, quoi, hein, sinon, ce serait dangereux. Alors, le gnosticisme tenait pour sûr que Dieu était tellement sublime qu'il ne pouvait se révéler. Et que les mots, comment dire, clés, hein, c'était le silence ou l'abîme. Un suguet, le silence, l'abîme. Donc, et que l'homme, de l'autre côté, ne participait en rien à Dieu, car dans la doctrine gnostique, on n'est plus dans le platonisme, ni dans le néoplatonisme, qui prétend que toute créature, enfin que toute réalité finie, participe d'une manière ou d'une autre à la réalité infinie qui en est l'origine. Mais dans le gnosticisme, on dit que tout ce qui est matériel provient d'une Alors, soit d'un démiurge idiot qui a créé, mais qui a créé n'importe quoi, ou alors c'est de l'ordre de la limite. C'est ce qui limite la plénitude de l'être, c'est le non-être, et le non-être, c'est la matière. Donc, si on est engagé dans la matière, on est nécessairement déjà dans l'ordre du mal. Vous voyez? Tout ce qui est matériel est mal. Et donc, évidemment, le divin, l'être, va pas se manifester au non-être. Il va pas se manifester à ce qui n'est pas, ce qui n'existe pas. Oui.
Quelle place accorde-t-il au démiurge idiot?
Alors, au démiurge idiot, alors ça dépend des doctrines. Alors, parce que, en fait, dans le gnosticisme, il y a des tas de doctrines différentes. Alors, pour les gnostiques chrétiens, bah, c'est assez facile. On va se dire, il n'y a qu'à voir le. Il n'y a qu'à comparer les deux testaments, et puis on a vite fait de dire que le démiurge maladroit, c'est le dieu de l'Ancien Testament. Donc, d'où le marcionisme, d'où toutes ces doctrines qui vont dire que, en fait, la création en tant que telle est déjà l'œuvre du mal, quoi. Elle est mauvaise en soi. Alors, ce qui est une manière aussi de lire. Enfin, vous voyez, on voit tout de suite que les hérétiques. Ils choisissent dans une idée plutôt que d'accepter le tout. Et du coup, ils font passer à la trappe des choses qui sont pourtant évidentes. Parce que quand dans la Genèse on dit que Dieu créa et c'était très bon ou c'était bon, bah ça, ils se gardent bien de le dire. Donc il y a quand même, et c'est là où on s'aperçoit que c'est une idéologie. C'est dans une idéologie, vous avez une idée. Qui naît à partir de la lecture d'un corpus, voilà, par exemple la Bible. Puis alors, tenez tellement à votre idée qu'ensuite vous allez faire rentrer la Bible dans votre idée, c'est-à-dire ce qui rentre pas dedans, bah vous le coupez, quoi. C'est le lit de Procuste. Ce qui rentre pas dans. Alors vous allez dire, par exemple, vous allez avoir un bel exemple d'idéologie chrétienne, c'est Luther, dont on a heureusement fini de se fêter le 50e centenaire. Depuis 15 jours. Luther, il va dire le salut par la foi seul. Et quand il tombe sur les passages où on dit par la foi et les œuvres, il va dire oui, mais ça, c'est pas authentique, ou alors c'est un rajouti, ou c'est une interpolation, ou alors c'est un texte qui n'est pas vraiment. Donc, hop, on fait disparaître de l'écriture ce qui ne vous convient pas. C'est-à-dire, vous êtes tellement séduit par votre idée que finalement, à la fin, vous voyez plus que votre idée et tous les éléments qui rentrent pas dedans. C'est exactement l'idéologie, c'est pareil avec le réel. Hein. Voilà, tous les éléments du réel qui rentrent pas dans votre idéologie, vous déclarez qu'ils n'existent pas. Et comme ça, voilà, vous développez une idéologie. Donc là, on est véritablement dans l'ordre de l'idéologie. Alors. L'idée du gnosticisme, c'était de rendre compte, enfin c'était quand même l'idée de rendre compte du mal. Hein. Le problème d'un Dieu parfait créant un monde imparfait. On est dans un monde imparfait, pas besoin d'ouvrir vraiment les yeux pour s'en rendre compte. Alors évidemment, il y avait des gens qui disaient, puisque Dieu a créé un monde parfait, c'est que tout est bon. Alors, vous aurez la théodicée lamnitienne, un peu dans ce style-là, en disant tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et vous aviez déjà les stoïciens qui disaient ça, puisque les stoïciens, pour eux, le monde, ils le prenaient comme divin et dans sa réalité concrète actuelle. Donc le monde, ils disaient, ah, ben, si on expérimente le mal, c'est qu'on est dans l'illusion. Donc
Bon, de notre point de vue.
parce qu'on est dans notre point de vue particulier, alors que si on est du point de vue du tout, eh ben on s'apercevra que le mal des uns, c'est la condition du bien des autres, ou même du bien du tout, en fait. Et que la question du mal, c'est une question qui tient simplement à l'individualisation et que si on se place du point de vue du tout, la question du mal disparaît. Le monde est, et puis c'est tout. Et si nous, on expérimente le mal, c'est qu'on n'est qu'une petite partie du monde et qu'on prétend, on usurpe en quelque sorte l'idée du tout. Et donc, expérimenter le mal, c'est une erreur, c'est même une faute. Alors, les gnostiques ont plus le sens du mal comme étant le mal, il faut le reconnaître. Donc, ils essaient d'expliquer d'attribuer, comme ils veulent sauver le Dieu qui est l'absolu, l'infini, le bien parfait, etc., ils se disent c'est évidemment pas lui qui a pu créer un monde aussi imparfait. Donc c'est là qu'ils vont attribuer l'existence de ce monde dont on a l'expérience à un sous-produit du divin. Alors chez les néoplatoniciens, c'était pas compliqué, on passait d'émanation en émanation. Donc vous savez, l'absolu produisait naturellement, sans s'en rendre compte, une première émanation qui en produisait une autre, et puis à la fin vous arriviez au monde matériel. Donc il suffisait d'exister pour que tout se produise comme ça, en chaîne, comme une sorte de réaction en chaîne. Et pour les gnostiques, ils intègrent davantage l'idée de liberté, et disent que c'est une sorte de sous-produit du divin, une création du divin qui va créer autre chose, mais qui va le créer mal. Donc le fameux démiurge qui va créer ce monde raté. Voilà. Donc le Dieu inaccessible produit des êtres intermédiaires par voie d'émanation. C'est ce qu'on appelle les éons, aiona, qui forment le plérôme. Voilà. Et au milieu de la série, il y en a toujours un qui commet une faute, qui fait une bêtise, et qui outrepasse ses limites ontologiques, qui tente de s'égaler à Dieu, et rejeté du plérôme, eh ben, il va trouver refuge dans le monde intermédiaire, les airs, et c'est là qu'il va créer le monde matériel par condensation de l'air, vous voyez, par exemple. Et donc, comme il est déjà mauvais, ce qui va sortir de son action, c'est quelque chose de mauvais, donc le monde matériel. Et alors, il se trouve que parfois, il y a des éons qui tombent aussi, qui se cassent en arrivant en bas, et du coup, il y a des petites fractions de divins, d'absolus qui traînent dans le monde matériel, alors qu'ils n'ont qu'une seule envie, c'est de retourner à leur origine. Et alors là, c'est justement ces pneumatiques qui vont essayer, à un moment, quand leur esprit s'ouvre, de retourner au divin. Voilà, au moins pour ceux qui ne sont pas totalement bestiaux ou psychiques, enfin illiques. Donc, la grande idée de ces doctrines, c'est qu'il faut rompre avec la matière qui est mauvaise, et on n'est pas sauvé par amour, par la grâce, on est sauvé en se retournant vers l'origine et en essayant de remonter tous les degrés ontologiques vers l'absolu. Alors, il y a plein de doctrines différentes. Alors, parce que comme ils voient qu'il y a le Christ, ils se disent qu'il faut quand même l'introduire dans notre système. Donc, il y a un sauveur quand même. Alors, on se dit qu'il y a un néon plus gentil que les autres, qui va aller chercher celui qui est égaré sur la terre, et en même temps, du coup, rassembler toutes les petites étincelles perdues. Alors, donc, c'est exactement comme... C'est un peu comme le Coran, où dans le Coran, vous trouvez plein de mots chrétiens, ou juifs, mais complètement à contre-emploi, ou qui veulent rien dire, mais voilà, ils ont été récupérés. C'est exactement ce que dénonçait Pie XI aussi avec le national-socialisme ou le communisme, qui utilise des mots du vocabulaire chrétien, mais complètement détournés de leur finalité chrétienne, mais pour tromper le monde. Alors, il y a des schémas assez compliqués. On connaît un certain nombre de ces doctrines par ceux qui les ont combattues et qui les ont citées. Et évidemment, le plus grand de ces auteurs, c'est Saint Irénée de Lyon, dans les 5 livres de qu'on appelle Contra Adversus Hérésies, contre les hérésies, ou qui s'appelle contre les hérésies au nom menteur, la gnose au nom menteur. Alors, il y avait aussi une sorte de naturaliste, on pourrait dire, un peu comme les gens qui épinglent les papillons, là, au Commerce Junger, là, avec ses coléoptères, là, qui les épinglaient. C'est Saint Épiphane de Salamine qui a fait la même chose avec les hérésies. Il est parti à la chasse aux hérésies, puis les a épinglées, toutes les unes à côté des autres. C'est le plus grand hérésiologue du IVe siècle. Il en a repéré 80. Et Saint Hippolyte de Rome aussi, au IIIe siècle, qui en avait repéré 32.
Lequel ? Comment il s'appelle ?
Hippolyte de Rome. Et alors, ça nous a été confirmé par la découverte en 1945 de la plus grande bibliothèque gnostique connue, de Nag Hammadi, en Égypte, dont les textes ont commencé d'être publiés en 1948. Et on a pu s'apercevoir, du coup, qu'un certain nombre de choses étaient bien... que Irénée n'avait rien inventé, hein, qu'il avait bien... Alors, si vous voulez, on va faire un exercice pratique. On va lire une de ces hérésies. Alors, c'est. Je vous cite peut-être avant de commencer l'un ou l'autre auteur, parmi les plus connus des gnostiques. Donc, première moitié du IIe siècle, on a Basilide et Valentin. Alors, Basilide, il fait un commentaire de l'Évangile en 24 livres, ainsi que des psaumes et des odes. Donc il va publier des choses sous forme un peu, vous voyez, poétique. Alors, il y a plusieurs systèmes différents selon les auteurs qui ont repéré, parce que après sous le nom de Basilide, il y avait différents systèmes qui ont prospéré. Alors Clément d'Alexandrie ou Hippolyte de Rome, puis aussi selon l'intelligence qu'ils avaient, ont pas tout à fait compris exactement ce que disait exactement la même chose par rapport à ce que des textes, paraît-il, de Basilique qu'ils ont eu. Donc on met souvent des noms tirés de la Révélation sur les éléments d'un système théogonique, cosmogonique. Donc on crée des dieux et du cosmos. Alors par exemple, dans la théorie de Basilide, le Christ serait un archonte. Alors les archontes, c'est des êtres fondamentaux, des êtres d'origine, de base, quoi, des êtres premiers, serait le fils d'un archonte duquel serait sorti un autre archonte, le dieu de l'Ancien Testament. Donc vous voyez, il y a l'archonte, il a eu un fils qui est le dieu le père, et un autre fils qui est le Christ. Et donc c'est ce Christ, découvrant le Père, qui aurait ramené, comme troisième archonte, toute l'humanité vers le Père. Pour Basilide, le Christ ne serait pas mort sur la croix, mais ça serait Simon de Cyrène. Donc c'est parfaitement docétiste, vous voyez. Mm-hmm. Et comme par hasard, c'est ça que le Coran a ramassé comme doctrine sur le Christ, sur la sotériologie. Et puis là, il y a Valentin aussi. Alors ça, c'est je dis ça, mais 24 livres, hein, donc ça résumé en 4 lignes. Et alors Valentin, donc c'était un mystique venu d'Égypte à Rome, vers 140, vous voyez, à peu près à l'époque où Saint Justin enseignait à Rome. Alors son système part de la transcendance absolue du Père. Mais ça, vous savez, ça sera bien repris dans la pensée chrétienne authentique, orthodoxe, à savoir que la théologie négative, comme dit saint Thomas, de Dieu on sait plus ce qu'il n'est pas que ce qu'il est. Autrement dit, la transcendance divine n'est pas annulée par la révélation. Elle est explicitée, mais on n'en a pas fait. Et du coup, la doctrine de Saint Grégoire de Nice, de l'épectase, là, du fait qu'on n'aura jamais fini de connaître l'infini, elle est très juste. Hein. On ne fera jamais le tour de Dieu. Hein. Alors donc, le système de Valentin, c'est de dire qu'il y a une transcendance absolue du Père et de sa pensée. La pensée, c'est déjà une production du Père, qui va produire ce plérôme des éons, qui sont au nombre de 30, et ils sont appariés par couple, dont le dernier des éons, c'est Sophia, c'est la sagesse. Alors, Sophia recherche le Père, Et cette recherche en dehors du pléroum, ça va devenir le principe du monde d'en bas, où des éléments spirituels sont emprisonnés. Alors, comme Sophia n'y arrive pas toute seule, on envoie le Seigneur, qui envoie la grâce par laquelle les spirituels vont être sauvés. Mais la grâce, encore un néon qui est envoyé pour rassembler tous les pneumatiques. Une partie des psychiques sont sauvées et les idiques pas du tout. Mais c'est normal parce qu'ils n'ont pas d'âme en gros. Une âme seulement matérielle.